Cet épisode vous est proposé dans le cadre d'une sélection spéciale anniversaire des Pieds sur Terre.
Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
Tout couple qui réussit est un couple qui commence à échouer. C'est une petite phrase qui, je trouve, mériterait d'être imprimée sur un magnet à coller bien en évidence sur tous les frigos des familles. Le genre de phrase à sens ouvert, mi-déprimante, mi-stimulante, mais qui aide à tenir le coup, comme le « keep calm and carry on » des Anglais. Un petit mantra. Tout couple qui réussit est un couple qui commence à échouer. Pourquoi ? Chacun est libre d'interpréter à l'aune de son expérience, mais c'est le philosophe Pierre Zawi qui l'écrit dans un long article de la Revue du Crieur. Il a aussi écrit « La traversée des catastrophes ». On peut donc lui faire confiance pour parler de ce projet absurde, éminemment fragile mais passionnant, qu'est la vie de couple. L'article s'intitule « Théorie du couple » parce que d'après Pierre Zawi, le couple est destiné à échafauder en permanence des théories. Pas seulement pour parler de la location des vacances ou de qui va s'occuper cette fois-ci du traitement anti-poux des enfants, mais pour prendre un peu de hauteur justement, s'inventer des lignes de conduite, des espèces de morale minimum. En matière de monogamie, de cohabitation sous le même toit, de tout ce que l'on veut en fait. De toute façon, toutes ces théories produites par les couples sont vouées à être fausses et provisoires. Mais c'est ce qui compte pour Pierre Zawi, que les modalités bougent, qu'elles épousent les aléas, les imperfections de la vie, qu'elles restent en chantier permanent. Car il y a deux écueils qui menacent tout le temps le couple, comme dans une traversée de Charybde dans Scylla. La pétrification idéale, quand le couple se fige et se contemple lui-même dans une image sociale très belle, très fabriquée, qui certes rend jaloux tous leurs amis, mais qui finit par les obliger à faire semblant. Et de l'autre côté, l'avachissement paresseux, si le couple cesse de s'inventer, de ferrailler, en gros, s'endort sur le canapé au lieu de penser. Oui, le couple a beau finir mal en général, s'il a une beauté, c'est qu'il donne à penser, avant, pendant et après. Comme l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire d'un couple singulier, voire extrême, ni pétrifié, ni avachi, aimons-nous vivants jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, Les Parents Terribles par Sophie Simoneau.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire d'amour de mes parents a commencé quand mon père avait 24 ans et ma mère 19 ans. Ils ont fait une randonnée en haute montagne et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et c'était évident. Mon père dit, je l'ai vu, c'était elle. Ma mère dit, je l'ai vu, il était beau. Alors ça, c'était son truc, il était beau, il était beau, il était beau. Il venait d'une grande famille. Et puis, il était drôle et il se prenait pas au sérieux. Donc, c'est deux choses qui étaient l'inverse du côté maternel. Parce que du côté de ma mère, c'était pas drôle. Parce que ma grand-mère maternelle, qui était très bourgeoise, s'était mariée avec un polytechnicien un peu fou. Et il avait opté pour une vie de moine. Alors tout ça dans des grandes demeures, mais enfin, et élever ses 12 enfants. Parce que ma mère était l'aînée de 12 enfants. Et donc, du côté de ma mère, c'était Nietzsche repas.
Ça veut dire quoi ?
Nietzsche, le philosophe. Chaque fin de repas, il y avait des lectures philosophiques. Du côté de mon père, c'était Dieu repas. Entre Dieu et la philosophie, il n'y a pas de grand écart, mais il y avait une simplicité du côté de la famille de mon père qu'il n'y avait absolument pas du côté de ma mère. C'était des rires constamment. Et ma mère a été attirée par ça. Et mon père, dans sa place de septième d'une fratrie de 11, c'était le seul intellectuel. Il croyait en Dieu, mais il n'était pas pratiquant. Il fumait comme un pompier. Il s'enfilait les séances de cinéma. Il lisait énormément. Il était évidemment de gauche et il s'intéressait à la politique, même dans les syndicats étudiants, etc. Donc forcément, dans ce milieu-là, ça détonnait. Et en même temps, il jouait les jeux de la bourgeoisie. Il allait à la chasse le week-end, dans les parties de chasse familiales. Il aimait ses parents et ses parents l'aimaient et tout le monde vivait dans cette tolérance de chacun. Et ça, ma mère, elle n'a pas été charmée par son côté engagé. Non, ça, elle a toujours dit, j'ai été charmée par son côté bonne famille. Et je me suis fait complètement avoir. Elle n'a absolument pas été charmée par ses idées intellectuelles. Elle a été charmée par sa connaissance, et mais surtout parce qu'il était beau. Voilà, elle s'arrêtait là. Non mais quand je vois les photos de l'époque, je les trouve magnifiques, ouais. Mon père, les yeux bleus, un visage très régulier, toujours souriant, toujours un sourire jusqu'aux oreilles, où on voit sa glotte tellement il sourit. Et ma mère était très belle et très attirée par les fringues, très, toujours très originales. C'était la bobo des années 70. Ils se sont mariés en 66. Ma sœur est née en 68 et moi en 72. L'année 68 a été déterminante. Parce que là, mon père a fait un virement total politiquement, c'est-à-dire que son côté libertaire qui était en devenir s'est affranchi. Et ma mère passait le CAPES de musique. Et ma mère, il faut dire que c'est quelqu'un qui a quitté l'école en cinquième. Parce que dans cette famille très intellectuelle, etc., elle a pris le parti de se réfugier dans la musique. Et donc, elle a arrêté l'école pour devenir pianiste professionnelle. Elle est sortie première du Conservatoire de Paris en solfège. Et très vite, il s'est avéré qu'elle ne pourrait pas jouer en public. Parce que il se trouve qu'elle est tombée malade. Elle était psychomaniaco-dépressive. Et ils ont passé ces années 70. C'était un mélange entre les réunions syndicales de mon père, l'engagement qu'il avait auprès de sa boîte en tant que jeune ingénieur syndiqué. Très vite, on avait des réunions de syndicats le soir avec des fumées de gitane maïs dans l'appartement. Beaucoup de monde à la maison. Tout ça avec ma mère, qui était quand même d'une fragilité extrême. Et mon père, eh bien, il protégeait ma mère. Elle allait pas bien, il fallait pas qu'on fasse de bruit, il fallait qu'on se mette de côté. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait la maladie des os de verre et qui mettait des coussins partout. C'était ma mère en premier, mon père qui protège ma mère, et nous, après. On n'était pas malheureux, mais c'était eux d'abord, et ça l'a toujours été. Yves et Anne-Marie, mes parents s'appellent Yves et Anne-Marie, et c'est un nom. Yves et Anne-Marie, comme si c'était une personne. Ils étaient fantaisistes, ils faisaient tout différemment. Bon, bah, leur amour aussi, ils le faisaient différemment. En tout cas, c'est un couple pour l'extérieur et pour nous en tant qu'enfants assez mythique. C'est compliqué quand on a eu un couple comme ça comme exemple. Faut assurer derrière quand même. Faut être sûr de trouver le bon. Pareil que papa et maman. Il y a eu ça, jeune. J'ai jamais réussi à être à la hauteur de l'amour de mes parents. Donc j'ai jamais été en couple. Enfin si, 3-4 ans quoi. J'ai une fille de façon très particulière. Enfin, je veux dire, son père m'a quitté quand j'étais enceinte. On était ensemble depuis 3 ans et on vivait ensemble et il est parti. Alors, je sais pas si c'est lié tout ça, mais quand même, il y a une image du couple qui est particulière chez moi, oui. Faut être à la hauteur. Et en même temps, c'est sacrément dangereux. Donc, l'un et dans l'autre, mieux rester seul, quoi. Je crois que c'est un peu de ça, quoi. Et j'aimerais que quelqu'un tombe amoureux de moi. Voilà. Mais je cherche pas. Non, faut que ça me tombe dessus et que ça soit un coup de foudre et que ça soit une histoire mythique et que... Mais non, je cherche pas. Non, je cherche pas. Non, je suis pas prête encore. Non. Je vais sur les sites, je rencontre des gens. Et j'étais à un rendez-vous il y a pas longtemps sur un site internet et c'était super sympa. Mais... J'étais super contente de rentrer chez moi. Et c'était super sympa. C'est pas dans mon... C'est plus dans mon truc, quoi. J'avance tout seul, quoi. Et on n'a pas ni bisous, ni fait l'amour, ni quoi que ce soit. Mais on peut se revoir. Enfin, je veux dire, c'est... Mais je... Non, voilà. C'était... Non. Non, mais là, il faut que je me soigne. Il faut que je me soigne. C'est pas gagné. Faut que je digère aussi, hein. Mes rencontres n'ont jamais été à la hauteur de cet amour-là et de cette folie-là. En 2013, mes parents, qui étaient installés en Bretagne, ils avaient déménagé dans une maison de campagne pour leur retraite. Et mon père a commencé à être malade, à avoir pu pouvoir marcher. Et donc, ça a duré pendant au moins 2-3 ans, même après l'opération, il a pu pouvoir marcher. Et parallèlement à ça, ma mère a commencé à être, à avoir des comportements hébétés par rapport justement à ce colosse. Elle l'appelait toujours le colosse au pied d'argile. Et donc, on s'est beaucoup tourné vers mon père pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de le raisonner. Il buvait beaucoup pour moins souffrir. On n'a pas regardé ma mère parce qu'on était pris par la souffrance physique de mon père et on sentait qu'elle était pétrifiée parce qu'il s'écroulait et en même temps, elle s'écroulait, mais on pensait que c'était une répercussion du malaise de mon père, quoi. Alors qu'en fait, elle a été diagnostiquée en 2015 d'un Alzheimer, apparenté Alzheimer. Elle était devenue incontinente, elle ne pouvait plus, pratiquement plus marcher, peu à peu, hein. Tout ça s'est venu peu à peu, mais peu à peu, en 4 ans quand même. Et le piano, elle est devenue à un niveau de débutant, et ça la peinait, elle. C'était parfois quand elle prenait conscience, elle disait... Je préfère pas trop parler parce que je vois bien que je dis des bêtises ou que je ne sais plus jouer de piano. Et mon père était toujours là, monsieur, ma chérie, vas-y, à l'accompagner. Et 2016, on a regardé le film Amour avec Jean-Louis Trintignant, avec ma mère, qui était déjà diminuée. Et dans ce film-là, Jean-Louis Trintignant tue sa femme et se suicide. Par amour, et elle me dit « Il faudra que tu l'aides. » Ah, je comprenais très bien de quoi elle parlait, mais à ce moment-là, je me disais « Elle parle de qui ? Il faut que j'aide qui ? Pourquoi ?» En fait, elle était déjà quand même bien atteinte, donc il y avait des moments de lucidité, et puis des moments où elle n'était plus lucide. Hein. Les moments où elle est plus lucide, c'est-à-dire tout d'un coup, elle mange avec un couteau, ou elle lave la salade avec une éponge et du bec citron, ou bien elle se trimballe en couche, enfin bon... Et puis les moments où elle lucide, elle disait ça. Et donc, je ne savais pas à qui elle s'adressait. J'étais pas du tout prête à... J'étais pas du tout dans l'acceptation. Je voulais pas de ça. En 2018, mes parents ont fait une tentative de suicide à base de médicaments et d'alcool. Chez eux. Main dans la main, dans leur canapé. Tentative parce que les voisins qui avaient emprunté de leur voiture sont venus rendre la voiture et ils les ont découverts et donc très vite ils sont été à l'hôpital. Donc tentative ratée, d'autant plus ratée que mon père s'est retrouvé en asile psychiatrique pour meurtre et ma mère en asile psychiatrique aussi alors qu'elle avait Alzheimer. Elle avait rien à foutre là, elle était entourée complètement barge. Enfin, bref, elle était barge aussi, mais bon. Bon, bref, ça a été un calvaire. Mon père a été accusé de meurtre, Ça n'a pas été au niveau de la justice, hein. C'était juste au niveau médical, c'est-à-dire qu'on lui a dit, en fait, votre femme n'a plus sa conscience. Donc, en fait, vous allez rester à l'hôpital et prendre conscience que vous voulez tuer votre femme, quoi. Un jour, le psychiatre, quand il était hospitalisé, lui dit « Vous n'aurez plus le droit de voir votre femme, vous le savez, monsieur Pajot, si vous continuez à avoir ces idées-là. » Il le sait, monsieur Pajot. Mon père restait droit en opilant de la tête et avec des larmes. C'était la première fois que je l'ai vu pleurer. Et du coup, moi, j'ai assisté à ça, alors que je n'aurais pas dû assister à ça, moi, en tant qu'enfant. Et à dire, à la place de mon père, mais ma mère, il l'a sauvé pendant 30 ans. Donc, qu'est-ce que tu me prends la tête, là? Mais en même temps, je comprends très bien le problème d'éthique. Il y a un problème éthique. Mais c'est leur histoire, là. Enfin, je veux dire, ou bien qu'on essaie de comprendre, ou bien qu'on essaie d'avoir des aides, mais qu'on dise pas à quelqu'un, c'est un meurtrier. Alors que c'était juste un amoureux. Mes parents ont toujours ils ont énormément parlé de tout ça. et avec nous et entre eux. Ma mère a toujours été je ne peux pas vivre sans toi. Je ne vivrai pas sans toi. D'extérieur, les faits sont les faits. Comment dire, il a abusé d'une personne malade. Maintenant, si on connaît l'histoire, je vois pas l'un sans l'autre. Je comprends ce que veut dire ma mère. Je comprends que c'est possible, quoi. Qu'elle serait partie avec lui, quoi qu'il arrive. C'est son Pygmalion, son colosse au pied d'argile. C'est une tentative qui nous a pas surprise. Elle nous a choqué, mais pas surprise, parce que ça faisait partie de l'identité politique de mon père, une décision de mourir dans la dignité et d'avoir du choix, le choix de sa fin comme de sa vie d'ailleurs. Et puis politiquement, ça rentrait aussi dans le cadre de les EHPAD, c'est un poids pour la société. Ça faisait longtemps qu'il réfléchissait. On en avait parlé longuement, on avait totalement refusé pendant, je dirais, un an ou deux. J'avais tenu tout un discours en disant, tu comprends, quand on est dans une famille, si l'un s'écroule, il emporte les autres avec, quoi. Et on va souffrir, tu peux pas nous faire ça, en gros. Tu peux pas nous faire ça. Et lui disait, mais c'est justement pour moi et pour vous que je le fais. C'est-à-dire pour vous, moi, pour m'éviter la vieillesse et les difficultés de la vieillesse, en particulier médicale, et c'est vrai qu'il en avait pas mal. Et vous, pour vous épargner, de vous écouper de quelqu'un de garbataire et d'avoir cette dégradation, etc. Et politiquement, j'ai mon droit, je suis libre. Et vous, les filles, vous êtes libres aussi. Et vous allez refaire la vie continue. Et il disait, mais Chloé, t'as ta vie, toi. T'as ta fille, puis ta fille va avoir des enfants, puis... Mais je lui dis, comment ça, c'est ça la vie? Ben oui, si, chacun, voilà, on a vécu, et puis on n'est pas dépendant. Je dis, mais si, on est dépendant. Je suis dépendant de vous, on est dépendant les uns des autres dans une famille. Et là, je voyais bien que lui, c'était pas du tout ça. On est dépendant à fait, comment dire, on s'aime, etc. Mais lui, la mort ne lui faisait pas peur. Donc du coup, j'ai compris sa démarche et j'ai dit, j'écris une lettre, je leur ai écrit à tous les deux en disant, voilà, je comprends et je vous accompagne. Maintenant, il va falloir un peu du temps pour que je l'accepte complètement. Mais je suis d'accord, j'aimerais bien qu'on réessaye la Suisse et la Belgique, etc. etc. Parce que il militait pour le droit de mourir dans la dignité, mais il n'avait absolument pas accès au suicide en Suisse et en Belgique. On lui avait dit que c'était impossible du fait que ma mère n'était pas en état. Elle était considérée comme inapte. Et mon père n'avait pas de maladie incurable. Et donc, en Belgique et en Suisse, il faut... on est dans le droit de mourir dans la dignité, mais il y a des limites. Ils sont pas encore dans le total freestyle. Donc, ils font non seulement les tests psychologiques, mais en plus savoir soit être en cancer phase terminale, soit avoir une maladie chronique très douloureuse, qui est intraitable. Mais à partir du moment où on n'avait plus toute sa tête, hein, Alzheimer. Et pareil, là, mon père pouvait plus marcher, mais bon, on pouvait lui couper sa jambe. Voilà. Et c'est pas assez grave. C'était quand même quelque chose de dingo, quoi. Parents qui disent, on va partir, on va se suicider, toi t'es là. Oui, non, attends, je vais réfléchir. Enfin, je vais dire. Donc, par contre, c'est vis-à-vis de la démarche. En fait, je voulais leur montrer qu'au niveau de la démarche, j'étais d'accord. Mais affectivement parlant, je n'étais pas du tout prête. Après, il s'est remis dans la vie, ça brillait encore dans ses yeux. Il a refait des réunions politiques. Il s'est beaucoup occupé de ma mère et de façon très gentille, très attentionnée. Et donc j'y ai cru tout en ayant que des angoisses tout le temps. Tout le temps, depuis 2 ans. Pendant 4 ans, des angoisses, c'est-à-dire que j'y ai cru, mais c'est-à-dire que par exemple, quand je les avais au téléphone, j'étais là, bon, ça va, ils sont là, ils sont vivants, ça va. C'était un enfer, pas pour ma mère, parce qu'elle n'avait pas l'air malheureuse. Ma fille n'arrêtait pas de dire, mais maman, elle n'est pas malheureuse, c'est vrai. Pour mon père, ça devait être atroce. Mais je trouve qu'il a eu le courage. C'est 2 ans, pas fastoche, quoi. Il a eu le courage, il a donné le change. Il a fait son taf, quoi. Et puis, il y a 6 mois, ils sont partis. Et puis, là, il a réussi.
c'est à la fois un soulagement pour lui, pour eux, et à la fois on a perdu les deux, quoi. Je suis heureuse qu'il ne souffre plus. Ça ne se voit pas, mais je suis heureuse, vraiment. Mais il me manque, quoi. Voilà. Et je voudrais encore palper, quoi. Encore sentir, échanger, toucher. Voilà, mais je suis contente. Et de plus en plus, tous les discours qu'on entend sur mourir dans la dignité, j'adhère à 250%. Après, quand on est concerné, c'est un peu plus compliqué. Mais non, intellectuellement, oui, je trouve ça chouette. Ils sont partis sans souffrir. Ils sont partis tous les deux, main dans la main. C'est avec une bouteille de gaz, de butagaz, de camping, dans la voiture. Ils ont éloigné la voiture de la maison. Bouteille de gaz sur l'emballage arrière et ils sont endormis certainement avec deux ou trois Xanax pour prendre du courage et un verre de whisky encore plus. Puis il y avait une lettre pour la dame qui s'occupait, enfin une des dames qui s'occupait de ma mère en disant qu'elle avait été fantastique, et c'est vrai. Et une lettre pour nous. Et donc on avait deux pages de recommandations. Les gendarmes ne revenaient pas. Et c'était assez drôle, ils ont dit, ben là, c'est la première fois qu'on voit ça. Voilà. Ma mère est morte 2 jours après mon père. Et en fait, quand ils sont allés dans la voiture, il lui a mis une couverture pour pas qu'elle ait froid. Et la couverture, c'est... On pense que c'est ça. C'est pris dans la porte et donc la porte était mal fermée et donc il y avait un filet d'air. Là, jusqu'au bout, il s'en est occupé, quoi. Avec cette couverture qu'il amène. Ça a dû être tout un truc d'aller dans la voiture parce qu'il marchait mal, lui, qu'elle ne marchait pratiquement plus. Mais en même temps, tout ça avec cette lourde couverture, enfin, voilà, je trouve ça touchant. Et à leur enterrement, il y a eu beaucoup de textes sur leur amour, sur le... Yves et Anne-Marie en un seul mot. Ils sont morts comme ils ont vécu, comme ils l'ont voulu. Libertaire. Tous les jours, c'est à la fois un soulagement et une souffrance. Alors, c'est de l'égoïsme. On peut voir ça du côté égoïsme, on peut voir de n'importe quel côté. Et notre père nous avait dit, les filles, j'ai bien vécu. J'ai fait tout ce que je voulais, j'ai joui. J'ai bu, j'ai rigolé, j'ai mangé, j'ai fait de la politique, j'ai aimé, j'ai eu mes filles, tout va bien. Donc là, c'est là-dessus qu'il faut rester. Mais je suis quand même en colère que ça ne soit pas passé autrement, mais la raison l'emporte. Bon, alors mes parents étaient fantaisistes toute leur vie, originaux. J'aurais voulu qu'ils finissent normalement. À savoir qu'ils meurent dans leur sommeil, ou bien avec la maladie, mais il y en a un après l'autre, ou bien, enfin, un truc qui ne nous fasse pas un coup comme à chaque fois, quoi. Comme diraient des voisins, des copains, les cons. Donc je suis un peu en colère, mais la raison l'emporte. Je les comprends. Je le comprends. Puisqu'on considère que maman n'était pas dans le coup. Je le comprends. Et je trouve qu'il a fallu beaucoup de courage. Je m'en veux sans m'en vouloir, mais j'en souffre quand même un peu de ne pas avoir été plus là. Voilà. J'aurais voulu qu'il soit pas seul, mais il aurait été forcément seul, puisque moi je pouvais pas, ma sœur refusait, vraiment. J'aurais voulu que des médecins l'accompagnent. Parce que j'ai vu J'ai vu souffrir. Et puis j'ai vu la peur aussi. La peur de... Là, il disait, mon père disait, je pourrais plutôt m'occuper d'elle. Je vais plus m'occuper d'elle. Je comprends pas qu'on n'accompagne pas les personnes âgées et en souffrance. Je considère qu'on a été... J'accuse personne, il n'y a personne de responsable, c'est une, la société est comme ça. Mais on a été seuls. Moi, mon père, ma mère, ma sœur, on n'a absolument pas été accompagnés. Mais je trouve ça intolérable, quoi. Intolérable. Donc, je comprends pas, je trouve ça complètement débile. Débile. Individuellement, sociétal, politiquement parlant, c'est débile. Tout est débile. Moi, j'étais très attachée affectivement, intellectuellement et très proche de mes parents, donc pas encore coupé que leur nom à 48 ans. Bon, c'est bien malheureux, mais c'était un peu mon problème. Peut-être que je vais plus avoir peur maintenant. C'est dingue, hein. Donc il avait raison, je vais m'envoler. Et d'ailleurs, par fierté, par orgueil, je vais lui faire honneur. Mais... Bon, bah, ça mettra du temps, un peu de temps, mais je sens bien que j'en ai la capacité. Je le sens. D'accepter tout ça. Et je sens bien aussi en moi qu'il y a une certaine fierté d'avoir eu des parents comme ça. Avec tout le côté négatif que je ne voile pas. Mais quand même, il y a une fierté. Maintenant, j'ai du mal à leur pardonner leur faiblesse. Que ce soit ma mère, genre, sa maladie, ou les deux maladies. La psychomanico-dépressif et puis Alzheimer, et que ce soit mon père, cette hantise de la souffrance et de la maladie. Ouais. Ça, je suis un peu vexée, parce que c'était pas mal sur ce coup-là, mais là, sur la fin, c'était un peu merdique. Non, mais là, tu vois, je suis sereine. La folie douce jusqu'au bout. Ah, les cons.
Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, c'était Les Parents Terribles, un reportage de Sophie Simoneau réalisé par Clémence Grosse. Merci à Chloé. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Mélissa Foust et François Bréus est notre stagiaire.